Théologie en liberté. Au micro, Joël Baumann. Je suis aujourd'hui à Saint-Étienne-du-Grès, dans les locaux de la communauté de Pomérolles, une communauté protestante à visée œcuménique, où l'on y vient pour une retraite spirituelle, des formations théologiques, ou simplement pour se joindre aux sœurs, un temps d'office, un moment de retraite spirituelle. Et je suis en compagnie de l'une des sœurs. Bonjour sœur Christiane.
Bonjour Joël.
Vous êtes sœur de la communauté de Pomérolles. Et qu'est-ce que ça implique d'être sœur ?
Ah, c'est un engagement à vie, un engagement de vie et pour la vie.
Bon, c'est bien résumé. J'ai aussi en face de moi Colline Raillon, et elle s'est jointe à notre entretien. De passage à la communauté.
Oui, c'est ça.
Et donc, vous êtes écologue de métier. Vous avez un regard sur l'écologie aujourd'hui, mais vous avez rencontré, comme vous le dites, le Christ, et des choses ont changé. Et vous questionnez sur l'actualité.
Voilà, comment cette crise que nous traversons, elle nous questionne sur notre rapport au monde, à l'autre, mais aussi ce que ça veut dire de vivre l'Église.
Voilà, donc c'est le sujet que nous voulons aborder aujourd'hui. Nous avons dans le protestantisme, en France, principalement deux communautés, il y en a d'autres, mais de prière et de service, celle des sœurs de Reuilly dans la région parisienne et la communauté de Pomérolles à Saint-Étienne-du-Grès, plus près de chez nous, où nous sommes. Et la prieuse et fondatrice était sœur Antoinette Bout, qui nous a quittés en
1986.
Voilà. Il y a donc un moment, mais elle a tellement marqué cette communauté que nous aurons à en reparler. Elle qui a vécu la guerre, qui a énormément œuvré ensuite pour l'accueil, réfugiés tout d'abord, un travail de reconstruction, d'être ébranlée par ce qu'il venait de subir. Elle a donc voulu partager avec d'autres sœurs, déjà un peu avant la guerre d'ailleurs, une prière pour le monde et dans le monde. Être veilleur, veilleuse, non pas à l'écart, mais bien engagé dans le monde. C'est important de le souligner et on en reparlera. Et en étudiant l'évolution du monde, de la société, déjà dans les années 70, elle a beaucoup travaillé un thème qui l'a touché très fort. Le titre de son travail, je crois, « Un monde s'effondre, un monde va naître ». Il y a à la fois un constat qui fait froid dans le dos, mais aussi une belle espérance dans son texte. Et sœur Christiane, vous avez eu à cœur ces temps-ci de reprendre un peu ce travail, cette étude, c'est bien cela ?
Je crois que nous sommes en plein dans la question actuellement, c'est une question qui est très actuelle aujourd'hui encore.
Et donc, quelque chose meurt, mais quelque chose renaît. De quoi est-il question dans cette étude ?
Alors je crois que c'est profondément une vision théologique du monde et de l'histoire. C'est comment Dieu agit à travers l'histoire. Et nous voyons comment les civilisations sont mortelles, n'est-ce pas, mais comment Dieu tisse son projet de vie à travers l'histoire.
D'accord. C'est donc, elle part d'un principe et d'une analyse qui est intéressante, c'est de dire que le 4e siècle, elle se tourne vers le 4e siècle, et que le 4e siècle ressemble beaucoup, alors d'abord à son époque, quand elle a fait son étude, c'est-à-dire dans les années 70, et vous, sœur Christiane, vous dites, mais non, il y a aussi là, aujourd'hui, quelque chose qui est comme de l'ordre de la ressemblance, de la répétition. Est-ce que l'histoire se répète ?
Alors, je ne dirais pas que l'histoire se répète. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. C'est aussi une vision de l'histoire. Mais par contre, il y a des analogies, effectivement. Il y a la démesure qu'on trouve d'une certaine manière au 4e siècle qu'on retrouve encore aujourd'hui avec beaucoup de démesures dans notre monde d'aujourd'hui. Il y a aussi tout un changement de civilisation et nous sommes dans un bouleversement civilisationnel, ça je crois que c'est pas un scoop de le dire, tout le monde peut le vivre. Par contre, et aussi les déplacements de population qui sont énormes aujourd'hui encore, peut-être autrement qu'au 4e siècle, mais c'est aussi tout un mouvement de population qui ne fait que s'accroître. Il y a de profondes analogies, effectivement. Mmh. Et on se demande aussi où nous allons, alors où nous allons, vers quel but, et avec quelle vision. C'est aussi peut-être ça qui nous pose question, notre vision des choses, alors que nous sommes dans ce changement civilisationnel.
Alors justement, venons-en au IVe siècle. Par exemple, il faut déjà un petit peu savoir ce qui se passait dans ce IVe siècle, même si on n'y reste pas trop longtemps. On ne va pas faire une analyse approfondie de ce temps. Mais qu'est-ce qui a préoccupé l'Européen, on va dire, du IVe siècle ?
Il y a une formule latine que beaucoup connaissent, qui, je dirais, tout homme plus ou moins, tout être humain plus ou moins cultivé de notre temps connaît, c'est panem et circenses, des pains et des jeux, et le retrouve, je trouve, aussi aujourd'hui. Nous sommes préoccupés d'avoir du pain, parce que nous sommes dans une crise économique, pour ne pas dire financière, mais en tout cas économique, avec la paupérisation d'un grand nombre autour de nous. Aujourd'hui, et des jeux, on voit l'importance des jeux, du divertissement aujourd'hui. C'était aussi le cas au IVe siècle. C'est, je dirais, une tare de ce IVe siècle qui est en même temps la marque de ce changement. On passe d'un état de la Pax Romana à ce qui va être le Haut Moyen-Âge.
C'est ça. Les jeux, le pain et les jeux, c'est un espèce d'embourgeoisement de la société, mais il y a également une crise d'État, une crise politique, une crise.
Il y a un bouleversement de la politique. La Pax Romana s'effondre. C'est la vision du grand empire romain est en train d'être complètement bouleversée. Et ça va être d'une part, il y a la romanité qui passe une civilisation qui est officiellement chrétienne avec Constantin, c'est connu. Et donc c'est la place de l'Église qui est liée à la politique qui s'installe. Et en même temps, une séparation entre l'Orient et l'Occident et les grandes invasions qui vont arriver sur l'Occident très vite, puisque ça sera le 5e siècle, 6e siècle. C'est l'époque des grandes invasions et du changement complet civilisationnel.
Vous voulez dire qu'on est aujourd'hui dans une période de bouleversement parce que grande invasion, il y a des partis politiques qui le disent.
Alors je dirais pas les grandes invasions, je dirais les mutations de population, oui, par contre.
Et les déplacements.
Et déplacements de population énormes, oui.
Oui.
Et qui ne font que commencer.
Et oui. Alors en 312, oui, conversion de l'empereur romain Constantin au christianisme. En 313, donc une année plus tard, un édit de tolérance de toutes les religions, y compris la religion chrétienne. Et là, l'Église se trouve dans une situation qu'elle ne connaissait pas. Elle était en clandestinité ou en semi-clandestinité. Et là, tout d'un coup, elle prend les rênes, officiellement. Elle se fourvoie un peu en politique, quoi. Comment l'Église s'en sort ? Parce qu'on la retrouve au Moyen-Âge. Et on la retrouve grandie, donc il s'est passé quelque chose.
Parallèlement ou à l'intérieur de cette église qui se politise, il y a tout un mouvement de désir d'un évangile radical vécu par certains. Et c'est le début du monachisme aussi, qui n'est pas une fuite du monde, mais qui est un désir de vivre l'évangile d'une manière le plus absolue possible et qui revivifie quelque part l'église par l'intérieur.
Est-ce qu'elle elle vivifie l'Église de l'intérieur ou est-ce qu'elles abandonnent un petit peu cette Église officielle pour se retirer ?
Les deux à la fois.
Les deux ? C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'il y a un abandon des pompes de l'Église, on peut dire, et de ses ambitions politiques, mais en même temps, il ne faut pas être trop radical là-dessus non plus, ou trop dissocier trop les choses, parce que très souvent, les moines qui ont cette culture qui est préservée et qui est cultivée à l'intérieur des monastères sont appelés à des fonctions d'évêques, par exemple en Occident, dans le temps justement de ces grandes invasions, qui ne sont pas seulement d'ailleurs un bouleversement qui fait tourner les choses, mais aussi qui revivifie un Occident vieilli. Et du coup, ils sont forcément aussi dans des fonctions politiques, donc on n'est jamais dans le tout ou rien.
Et donc c'est un ferment qui aide l'Église et les chrétiens d'une manière plus générale à entrer dans cette société, dans ce nouveau statut qu'ils ont. Au niveau social, au niveau politique.
Ça les fait vivre, je dirais, d'une vie intérieure au milieu de tout ce qui se défait, qui perd son sens antérieur pour trouver un sens nouveau. Voilà.
Oui. Alors, ces premiers ordres religieux sont une manière de sauver la foi, on va dire, de redonner sens, en tout cas, de vivre l'accueil de tous les laissés pour compte. Quels sont les principes qui régissent un petit peu ces communautés?
Alors, il y a un verset qui se trouve, qui est sorti d'un psaume, qui a donné son nom aussi au monachisme. C'est « Unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom ». Unifie mon cœur, ça donne monakoun dans le grec, donc ça a donné le monachisme aussi. Et avoir un cœur un pour vivre seul devant Dieu le seul, mais aussi un cœur un avec les autres. Donc c'est aussi être d'un seul cœur avec ceux avec qui on vit, et un seul cœur pour être frère et sœur de tous, je dirais, mais aussi être... dans le monde sans être du monde, comme disait le Christ.
Et est-ce qu'on peut se dire que l'authenticité de la foi est passée presque uniquement par ces monastères, par ces couvents? C'est quelque chose qui a porté la foi de ce régime un petit peu officiel, politisé, un petit peu fourvoyé, et le Moyen-Âge, en fait. C'est un peu la thèse de sœur Antoinette, non ?
Je parlerai plutôt de l'Occident, que je connais un peu mieux, si on peut dire, que l'Église d'Orient, ou un peu moins mal. Et je pense qu'il y a des grands évêques, il y a des grands théologiens qui sont des prélats dans l'Église, mais comme je disais, ils sont souvent cherchés dans les monastères. D'autre part, je pense que les monastères sont des lieux de refuge de la culture, non seulement de la culture religieuse, mais de la culture tout court, parce que c'est des lieux où on vit la culture. Les scriptoriums monastiques sont bien connus. C'est donc à la fois une diffusion de la foi et en même temps un lieu où on peut vivre en paix quelque chose.
Et même économiquement. Économiquement, ils apportent aussi, tout à fait. Aux populations autour des monastères, ils apportent travail, pain, donc.
Absolument.
Oui. Donc, on va en rester là sur ce 4e siècle pour voir, après une pause musicale, ce que nous pouvons en faire pour aujourd'hui.
Si j'ai bien toute ma mémoire, disait Dieu dans un coin du ciel, j'avais commencé une histoire sur une planète nouvelle, toute bleue. Bleu pour pas qu'on la confonde. Je vais aller m'asseoir sur le rebord du monde, voir ce que les hommes en ont fait. J'y avais mis des gens de passage et j'avais mélangé les couleurs. Je leur avais appris le partage, ils avaient répété par cœur toujours. Tous toujours dans la même ronde. Je vais aller m'asseoir sur le rebord du monde, voir ce que les hommes en ont fait. Pour chaque fille, une colline de fleurs. Et puis j'ai planté des arbres à pommes où tout le monde a mordu de bon cœur. Et partout, partout des rivières profondes. Je vais aller m'asseoir sur le rebord du monde, voir ce que les hommes en ont fait. S'arrête, il paraît que les fleuves ont grossi. Les enfants s'approchent, s'inquiètent, demandent pourquoi tous ces bruits, sans doute. Dieu et sa barbe blonde. Dieu qui s'est assis sur le rebord du monde et qui pleure de le voir tel qu'il est.
Vous êtes sur Radio Alliance Plus, Théologie en Liberté, et nous sommes en entretien avec Sœur Christiane de la communauté de Pomerol et Colline, que l'on va entendre, qui pour l'instant n'a pas dit grand-chose, mais parce que je ne lui ai pas donné la parole, mais on va l'entendre dans pas longtemps, au sujet de cette thèse, on va dire, de Sœur Antoinette, la fondatrice, la prieuse de la communauté de Pomerol. Un monde s'effondre, un monde va naître. Voilà. Donc, cette situation du IVe siècle, Sœur Antoinette l'évoquait pour parler de son époque, les années 70, bouleversement culturel, économique, retour à la terre pour certains, retour à une vie communautaire, découverte de la vie communautaire aussi. Les mouvements communautaires étaient très forts dans les années fin 60, 70, et aussi des réveils spirituels. Mais aujourd'hui, sœur Christiane, vous reprenez cette étude pour nous parler de notre époque. 21e siècle, vous voyez des convergences également avec ce siècle, ce 4e siècle, des analogies.
Alors, dans ce que dit Sœur Antoinette, donc dans sa vision théologique de l'histoire, elle dit qu'il faut toujours recommencer par la base, que c'est des petites semences de vie nouvelle qui est consacrée, qui peuvent redonner la vie dans un monde chaotique. Et je pense qu'aujourd'hui encore cela est vrai. On est aujourd'hui dans un monde que beaucoup trouvent chaotique et où il y a un certain manque d'espérance, un certain manque de vision d'avenir. Et il me semble que les semences de vie nouvelle sont encore là et que Dieu travaille aujourd'hui encore notre monde. Il s'agit de voir où il travaille et de voir ce qui germe. Donc, personnellement, vous me demandiez tout à l'heure qu'est-ce que c'était être sœur. Alors, c'est aussi vivre une communauté d'accueil et dans un accueil qu'on essaye de vivre inconditionnel. Il faudrait préciser ce que c'est inconditionnel, mais là, je n'ai pas le temps. Je vais juste dire donc que je nous vois comme des lieux d'écoute et de prière vigilante pour accueillir ce que Dieu fait, ce qui va pouvoir germer. Quand nous nous sommes engagés dans les années 70-80, c'était comme un printemps du monde. Après les années de bouleversement de la guerre, il y avait toute une espérance qui n'est peut-être plus... Il y avait aussi eu Vatican II au niveau œcuménique. Ce n'est plus exactement ce que nous avons comme terreau aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est assez différent la mentalité dans laquelle on peut s'engager, vivre quelque chose de nouveau et quelque chose qui soit pour la vie. Et là, je pense que nous avons à couver quelque chose, à couver la vie dans la prière, mais ce n'est pas nous qui bâtirons ce monde nouveau. Nous pouvons le favoriser par notre accueil, par notre écoute et par notre prière. Mais ce sont les jeunes qui bâtiront aujourd'hui.
Une communauté peut être un ferment aujourd'hui ?
Les communautés peuvent être ferment aujourd'hui, mais comment ? Oui. Là, je préférerais que ce soit quelqu'un de plus jeune que moi qui en parle.
Voilà. Alors, nous allons passer la parole à Colline, qui est donc, je le disais tout à l'heure, écologue de métier. Et rencontre du Christ ?
Oui.
Bouleversement ?
Bouleversement.
Et alors ? Dans la façon de comprendre aussi le monde ?
De comprendre le monde et de comprendre aussi cette crise que nous traversons. Je pense que dans mon passer d'écolo, alors on pourrait toujours me qualifier d'écolo, mais oui. Je n'aime plus trop ce terme.
Pourquoi ?
Justement, pour ce rapport allez-y. Au monde qui a changé, c'est-à-dire que mon action d'écolo a été orientée sur changer le monde, essayer presque de le sauver par ma façon d'agir. Et cette rencontre et puis je pense que j'avais l'écologie pour moi était une façon de contester le monde et le système et je pense et là c'est ma repentance d'écolo, je crois que à travers cette action là et cette façon d'agir j'ai en fait fait rentrer l'écologie dans le système et aujourd'hui l'écologie n'est plus un moyen de contester le monde. Et ma rencontre avec le Christ et ce chemin que j'ai commencé m'a juste fait montrer que seulement le Christ peut finalement casser nos systèmes et nous dire non, c'est pas dans le système capitaliste que nous trouvons notre vie, mais c'est en Christ. Et de ça, c'est voilà, qu'est-ce que ça veut dire trouver la vie, vivre dans ce monde-là. Et comment finalement cette crise, elle nous questionne. C'est pas tant une crise qu'il faut résoudre. Enfin, alors bien sûr, il faut agir. Mais avant tout, c'est comment ça nous questionne sur notre rapport au monde, à l'autre. Et en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire aussi de notre façon de vivre l'Église et qu'est-ce qu'on a vraiment envie de vivre ensemble.
D'accord. Et comment vous voyez donc notre situation actuelle ?
Alors avec mon regard d'écologue, mais je pense que ça se croise avec les sociologues, les politologues, etc. Pour moi, on est dans un système qui est en train de s'effondrer. Mais pour moi, c'est une question, c'est plutôt une espérance parce que c'est au moment où on est au pied du mur qu'on peut changer et se retourner, faire ce changement radical, voilà. Donc je vis ce monde à la fois, on est face à un effondrement, et en même temps, il y a plein d'espérance, il y a beaucoup d'espérance.
Alors, un monde s'effondre, donc un monde va renaître.
Oui.
C'est ça.
Oui.
C'est ça l'espérance.
Mais oui.
Comment un jeune, une jeune en l'occurrence, voit ce monde qui va renaître ? Comment est-ce que l'Église peut y aider ?
Alors, on peut imaginer plein de choses. Je crois que chez Sœur Antoinette, il y avait quelque chose, une intuition forte, c'était que l'Église, il fallait entrer dans un temps de l'incarnation pour l'Église. Et ces petites communautés, elles vivent cette incarnation. Et je crois que effectivement, il faut passer d'un temps de l'Église institution à un temps de l'incarnation.
Qu'est-ce que vous entendez par incarnation ?
Et finalement, c'est comment on témoigne concrètement de cet amour et de cet accueil inconditionnel du Christ pour tous. Et comment on est dans un monde où toutes les relations sont complètement... complètement, c'est un peu exagéré, mais où il y a beaucoup de liens. Le lien est bien détruit. Comment on relie tout ça, et c'est aussi la question des communautés presque élargies avec la création, comment on fait communauté, pas seulement entre humains, mais avec le non-humain et toutes ces espèces animales, végétales, finalement dans nos églises où on porte une théologie du salut pour toute la création, finalement qu'est-ce que ça veut dire vraiment, et comment on l'applique, voilà, alors François d'Assise m'est cher aussi, et je pense qu'il y a quelque chose à revivre là-dedans, et Sœur Antoinette, elle avait ça aussi à cœur.
Et donc, cette Église, elle peut jouer un rôle aujourd'hui, même dans un contexte qui est le nôtre, d'une image de la religion qui est très négativée par les médias, par ce qu'on voit, par de certaines crises également dans l'Église, et puis dans certaines religions, Dieu est instrumentalisé, l'idée de Dieu est instrumentalisée beaucoup. Donc comment on peut sortir de cette négativité et apporter quelque chose de positif en tant qu'Église, en tant que chrétien, aujourd'hui, c'est difficile.
Déjà, si on a une certaine cohérence entre ce qu'on croit et ce qu'on vit, et ça, je dirais, c'est le privilège d'une simplicité de vie qu'on peut avoir dans les communautés. On n'est pas dans seulement les grands débats d'idées qui sont nécessaires, mais on peut, à la base, vivre des toutes petites choses, mais qui sont dans la louange et la reconnaissance pour ce qu'on reçoit et ce qu'on vit avec Dieu chaque jour et avec les uns avec les autres. Et c'est cette reconstruction par la base qui est là au jour le jour, je dirais, mm-hmm. qui est donnée, qui est reçue, tout autant que on y participe, mais parce qu'on la reçoit déjà de la bonté de Dieu dans, mm-hmm. Dans nos vies. Et je dirais aussi que notre espérance est là parce qu'on peut continuer à le vivre, même si le quotidien n'est pas toujours exaltant, mais on peut continuer à le vivre parce que notre espérance est une espérance qui est en Christ. Ce n'est pas des espoirs ponctuels qui sont dans une réussite. On peut aussi assumer nos échecs, nos déceptions, parce que Christ est ressuscité. Et c'est notre Dieu est un crucifié ressuscité, donc c'est notre espérance est liée à lui d'abord. Mmh. Et ça, le monde qui s'effondre et le monde qui naît, il est au cœur de cela.
Et la communauté peut être un lieu refuge.
Je pense que la communauté est un lieu complémentaire de l'Église institution et que à l'intérieur même de l'Église institution aujourd'hui, alors on est dans l'Église institution parce que l'Église institution nous l'aimons et nous la vivons aussi, mais à l'intérieur même de l'Église institution, il y a cette recherche d'une vie communautaire, cette demande d'une vie communautaire, cette aspiration à la communion. Mm-hmm. Et au fond, le mot qui est au cœur de la communauté, c'est aussi communion, comment vivre la communion.
Et Colline ?
Oui, alors je crois que la communauté, elle se vit de façon différente et chaque paroisse, église locale est appelée à vivre la communauté. La communauté, ça signifie pas forcément une communauté de vie où tout est partagé. Et je crois qu'il y a vraiment à redécouvrir ce sens-là dans l'église et c'est aussi ça qui témoigne d'une espérance autre.
Assumer avec réalisme nos petitesses et nos limites dans l'espérance dans celui qui est venu partager nos petitesses, nos limites et qui nous donne de vivre de sa vie.
Merci Sœur Christiane, merci Colline et merci à tous auditeurs de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur radioalliance+.fr. Au revoir.